BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'association de la semaine. Et cette semaine, on reçoit l'association SAD, Soutien scolaire, aide aux devoirs. Et son président, Boubacar Greichi, est avec nous. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Bonjour et merci de m'avoir invité à votre antenne. Donc, pour présenter l'association SAD, elle existe depuis 2008. On l'avait créée avec Monsieur Boudigou et Monsieur Belfond. À cette époque-là, Monsieur Belfond était président et on travaillait tous dans une société de logistique et de transport. Nous avons décidé de créer cette association pour venir en aide aux enfants du Val-Fouré. Comme nous étions installés beaucoup plus sur les Garennes, donc c'était beaucoup plus ces enfants du quartier des Garennes qui ont été touchés pour la plupart. Ensuite, à chaque fois qu'on avançait dans le temps, on trouvait une certaine difficulté qu'il fallait niveler aussi. Et du coup, ça nous permettait de créer une autre activité. Donc, on avait commencé par l'accompagnement en scolarité.
Donc, au départ, le besoin a été le soutien scolaire pour les enfants.
Le soutien scolaire et l'aide aux devoirs. C'était le premier besoin, c'était la raison d'être de l'association à ses débuts. Donc, à cette époque-là, comme on était focalisé sur le soutien scolaire et l'aide aux devoirs, nous avions jusqu'à 300 élèves par an.
Ça, c'était donc à ses débuts en 2008.
Oui, il faut comprendre qu'au début, c'était un petit peu difficile parce qu'on n'était pas très connus. Du coup, on avait à peu près une soixantaine. L'année d'après, après le travail que nous avions fait sur le terrain, le travail commençait à parler pour nous. Et du coup, on a vu le nombre triplé carrément en 2 années. Donc, il fallait trouver un grand espace pour travailler, pour trouver du monde aussi pour aider. Et du coup, on s'est retrouvé avec à peu près une trentaine de collaborateurs qu'on appelle des accompagnateurs scolaires. Et on a eu beaucoup de chance parce que le CVS des Garennes avait démarré pratiquement en mars, enfin il avait pratiquement démarré en mars 2008. Et du coup, on a pu avoir des salles pour pouvoir travailler aisément là-bas. Donc on a fait ce travail-là, c'est juste après l'école, de 16h30 à 18h30, voire 19h. Donc on touchait les élèves de primaire, de secondaire, du collège et terminale, lycée.
Vous avez démarré donc par l'aide scolaire et puis rapidement, d'autres besoins se sont fait sentir.
Exactement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des parents qui venaient inscrire leurs enfants, on voyait chez eux un manque d'autonomie. D'autonomie langagière, d'autonomie sociale. Et donc on avait décidé, après plusieurs formations que Mme Greichi avait faites, pour faire les ateliers sociolinguistiques. Donc là aussi, on a démarré cette action avec à peu près 70 personnes. Ça allait crescendo jusqu'à monter jusqu'à 120 adultes par année. On avait pratiquement 8 formatrices qui s'occupaient de tout ce travail parce que les personnes étaient divisées en groupes et ils travaillaient dans le CVS matin, après-midi. C'était un petit peu dur, mais il y avait des facilités de l'État qui nous permettaient de faire ça. D'une part, on pouvait recruter des volontaires services civiques à leur existence en 2012. Et certaines, c'était avec des contrats aidés. Et c'était en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale. Donc sur ces deux pôles, on avait bénéficié de leur aide pour pouvoir recruter des personnes en contrat aidé.
Et comment ça se passe un atelier linguistique, par exemple ?
Un atelier linguistique, après l'inscription et le passage de ces personnes par le pôle d'apprentissage du français, donc on les recevait et en premier lieu, on faisait une évaluation pour voir à peu près leur niveau. Une fois que l'évaluation, le niveau est établi, donc on commençait à travailler avec leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre ? Et de quoi ils ont besoin ? Et en mélangeant tout ça, on travaillait sur ça. Il y en a qui voulaient, par exemple, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à sortir, comment prendre le bus, comment prendre le train, comment se diriger vers tel endroit, comment... Donc, on les formait à ce genre de situation par l'immersion carrément dans l'action. Celui qui a besoin de prendre un train, on prenait le train avec un groupe pour leur montrer comment faire. Ça passait aussi par des sorties, ça passait par des visites au musée, des explications comme ça. Par certains moments, on ramenait certains professionnels qui expliquaient aussi ces choses-là, qui sont bien imprégnées dans cette branche du langage.
Et donc ensuite, vous avez encore grandi?
Ah oui, on a arrêté. On se tire, on grand, c'est pas qu'on grandissait, c'est-à-dire qu'on se développait peut-être latéralement. Quand on a vu ces personnes, on les a reçues, on a travaillé avec eux, on a établi un certain lien de confiance, ils ont commencé à nous parler de leurs problèmes de vie. Donc, et du coup, nous avons décidé de faire de la médiation. Dans un premier temps, elle était orientée vers l'école, parce que les parents avaient peur d'aller à l'école quand leur enfant, soit il a subi quelque chose, soit il a fait quelque chose, ou alors il a mal travaillé à l'école, et ainsi de suite. Donc, on accompagnait ses parents pour leur prouver que l'école était ouverte et qu'il y avait de la discussion et qu'ils peuvent trouver et comprendre ce qui se passait. Et du coup, on a fait cette médiation scolaire, éducative et familiale. Et ça allait. Donc, les gens, après, chaque fois qu'ils avaient besoin d'une aide, par exemple pour une médiation ou pour assister au conseil des classes de leurs enfants, on les accompagnait avec l'agrément de la direction du collège, de l'école. Donc vraiment, c'était des liens qui sont devenus très très bien du côté de l'école et du côté des parents aussi.
Donc vous travaillez main dans la main avec les écoles?
Oui, d'autant plus qu'il y a eu un système qui s'est greffé à tout ça et qui s'appelle l'OPRE. C'est ouvrir l'école aux parents. Et donc, on a orienté des parents féminins, pratiquement, pour qu'ils apprennent la langue française à l'école. Donc, ils se sont retrouvés pratiquement dans des établissements tels que le collège Clémenceau. Avant sa disparition, le collège Chénier. Et actuellement, le collège de Gassicourt. Donc, on envoyait des parents dans ces trois collèges pour qu'ils suivent des cours de français donnés par des personnes de l'établissement. Et ça aussi, ça a fonctionné et ça fonctionne toujours. Et tant mieux.
Vous avez ouvert d'autres pôles dans votre association?
D'autres pôles, oui. C'est-à-dire, après l'apprentissage du français, il y avait aussi, on avait fait l'atelier pré-emploi. Dans sa première année, il a bien marché parce qu'on avait accueilli plus de 45 personnes pour les orienter, c'est-à-dire pour leur montrer ou les aider plutôt à écrire un CV, à faire une demande, chercher un emploi, où chercher cet emploi, comment s'adresser à l'employeur, quelles sont les questions qu'il faudrait poser à cet employeur quand on voit que nous sommes à 90% près d'être embauchés. Savoir où on met les pieds, comment y aller à ce travail, comment revenir, à peu près ces choses-là. Ça a marché vraiment, et puis il y a le Covid qui est passé par là, il a tout brisé. Tout.
Vous sentez une difficulté depuis le Covid pour recommencer l'accompagnement?
Pour cet atelier particulièrement, parce que les autres ateliers continuaient à marcher, Covid ou pas Covid. Donc on n'a pas arrêté. Ni l'accompagnement en scolarité, donc on recevait par courrier, par mail, les devoirs des enfants, on travaillait dessus, on les aidait, soit par téléphone, soit par visioconférence. Donc on n'était pas resté laxiste comme ça. Surtout qu'il y a eu, juste après le confinement, il y a eu les quartiers d'été. Et là, donc on a essayé de récupérer un petit peu ce qui était perdu avec les élèves, sur 2 mois, sur le mois de juillet et le mois d'août. Donc ça a marché et c'était bien, on a fait notre possible pour que ça marche.
On sait justement que le Covid a été très difficile pour les enfants au niveau scolaire, encore plus pour ceux qui pouvaient avoir des difficultés. Est-ce que vous l'avez ressenti?
Énormément, ils étaient très craintifs, ils étaient désorientés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils voyaient les sourires de toutes les personnes auparavant. Et subitement, il y avait un masque qui cachait tout. Même si les yeux souriaient, il n'y avait pas cette expression sur le visage qui illumine la personne, qui est le sourire. Et du coup, donc ils ne savaient plus quoi faire. Heureusement que ça s'est arrêté. Et petit à petit les masques tombaient au sens propre et figuré du mot, et la vie reprenait son cours. L'été était très beau, c'était un très bel été que nous avions eu, et du coup il y a eu des sorties, il y a eu une décompression totale. Ça leur a vraiment fait du bien. Après, à la rentrée scolaire, vers le mois d'octobre, on a bénéficié d'une aide de l'ANCT du côté de l'État. Il y a 24 élèves qui sont partis en colonie ou en sortie éducative en Haute-Savoie. Ils ont passé une semaine là-bas, une semaine de rêve. Alors vous imaginez les parents, sur les 24 familles qui sont parties, peut-être moins, 20 familles, parce qu'il y en a qui ont 2 ou 3 enfants, sur les 20 familles, il n'y en avait pas un seul qui a envoyé tout seul son enfant de 6 ans, 7 ans en colonie. Donc quand ils ont vu qu'il y avait Mme Greichy qu'ils estimaient beaucoup, ils ont eu confiance, ils ont laissé leurs enfants partir, et quand ils sont revenus, les enfants, ils étaient transformés totalement. Ils rangeaient leur chambre tout seuls, ils rangeaient leurs affaires. C'était un changement radical pour eux. J'espère que ça a continué.
Vous les aidez dans leur autonomie.
Exactement, c'était peut-être pas le but, mais ça y a fait beaucoup de choses, cette sortie-là. Donc d'abord, ils se sont aérés avec un air de montagne et avec des huskies, des chiens pour traîneaux et tout. Et donc, ils se sont vraiment divertis totalement. Et quand ils sont revenus, ils restaient toujours groupés ensemble, faisaient une petite famille comme ça au coin du CVS. Nous sommes partis en Savoie, vous pas, alors restez loin de chez nous.
Quel est votre but aujourd'hui pour l'association ?
C'est toujours le même, que tout le monde puisse bénéficier de cette aide-là, que ces enfants puissent réussir dans leur vie, qu'ils fassent des études très poussées. Ça leur servira dans la vie, ça leur servira pour leur famille, pour eux-mêmes. Et puis avoir un savoir dans la tête, ça ne s'efface jamais. Puis ça mènera tout le monde sur un chemin droit, un chemin réglementaire, où ça bénéficiera à la société finalement.
Votre association aujourd'hui, elle a pratiquement 15 ans. Est-ce que vous avez déjà les retours ? Vous pouvez voir les enfants qui ont grandi et qui ont évolué aussi.
Oh, ça c'est une très belle image. Vous voyez, quand ils étaient jeunes, ils avaient un physique. Quand ils ont grandi, le physique a changé. Et des fois, ils se mettent devant nous comme ça. Bonjour Madame Greichy, bonjour Monsieur Greichy, vous vous souvenez de moi ? Généralement, Madame Greichy a bonne mémoire. Donc elle resitue un petit peu le cycle et puis elle trouve le nom. Moi, absolument pas. Des fois, je les zappe, quoi. Je suis désolé, je ne vous reconnais pas. Mais je suis tel, j'ai fait. Et qu'est-ce que vous devenez ? Ben, je suis étudiant, j'ai eu mon master, j'ai eu ça. Ah, ça, c'est génial. Vraiment, c'est. Ils ne sont pas ingrats. Même ceux qui sont sortis du circuit scolaire, ils avaient toujours ce respect. Oh, merci, vous nous avez quand même aidés. Vous nous avez. Vraiment, ce que vous avez fait pour nous, on ne l'oubliera jamais. Donc, quelque part, c'est le remerciement qu'on attendait.
Aujourd'hui, combien de familles vous accompagnez ?
120. Je les ai comptées la dernière fois. En fait, je suis arrivé à un nombre de 120. Mais il y a eu d'autres inscrits, mais c'est pas... Mais on a vraiment 120 familles en accompagnement à la scolarité. Là, pour les ateliers sociolinguistiques, c'est différent parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas leurs enfants avec nous, qu'ils habitent dans d'autres quartiers, qu'on ne va pas leur imposer de ramener leurs enfants avec nous. Non. Notre but, c'est de travailler, pas de chercher à désorienter les familles. On a 120 familles exactement, à peu près pour un effectif de 200 élèves en accompagnement à la scolarité.
Qui vous accompagne aujourd'hui dans l'association pour réussir à faire tout cela ?
Les moyens humains, c'est-à-dire que... Il y a Madame Greichy et il y a moi, on travaille en bénévole, on travaille vraiment très très dur aussi. Ben, nos horaires sont particuliers, c'était pratiquement de 8h30 du matin à 21h, voire un peu plus, quand il y a des choses à mettre à jour. Sinon, on a aussi des accompagnateurs scolaires, ils sont à peu près au nombre de 15. Et on a recruté cette année aussi 2 formatrices pour les ASL. Pour les ateliers sociolinguistiques, comme je vous disais tout à l'heure, on a un atelier sociolinguistique qui s'est créé l'année passée et il est orienté vers les personnes qui travaillent la semaine, qui ne sont libres que le samedi. Donc, on les a pris dans cet atelier-là pour la matinée de 9h à 11h et de 14h à 16h. Donc pour ces gens-là, comme ça, ils peuvent bénéficier de cette aide-là. Ensuite, on a attaqué un autre atelier, c'est pour les seniors, pour des personnes qui ont dépassé pratiquement pas l'âge du travail, qui travaillent, mais ou qui sont plutôt dans, au sein, c'est-à-dire des femmes au foyer, des personnes qui sont juste comme ça, leurs enfants ont grandi et se retrouvent. Ce n'est pas un besoin financier dont elles ont besoin, c'est plutôt un besoin d'aération, de convivialité avec les personnes et tout. Et c'est une mobilisation de ces personnes-là pour une vie plus sociale, plus sociable aussi.
Vous aidez aussi les personnes à découvrir l'informatique pour celles qui ne connaissent pas encore.
Cet atelier, ça fait à peu près 3 ans qu'il existe. Donc la première année, on l'avait fait tout seul, c'est-à-dire on n'avait aucun partenaire. Et je faisais moi-même les ateliers. Donc j'apprenais les béabas de l'informatique à ces personnes-là. Le fonctionnement de l'ordinateur, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il peut nous donner l'ordinateur. Des ateliers comme ça, c'était sur 3 jours par semaine, matin et après-midi. Donc les gens, ils étaient libres de venir à l'atelier comme ils le souhaitaient. Il n'y avait pas des impositions. On voulait juste qu'ils puissent venir. Et d'autres, pour d'autres personnes, on leur apprenait carrément comment, par exemple, s'ils sont avancés dans un... Comment faire, par exemple, une actualisation sur le site de Pôle emploi, comment faire des déclarations trimestrielles au niveau de la CAF, comment trouver un rendez-vous à la préfecture de police pour le renouvellement des titres de séjour, et ainsi de suite.
Toutes ces choses quotidiennes qu'on ne peut faire aujourd'hui que par informatique.
Exactement. J'ai vu une caricature, il y a un monsieur qui est venu, et je voudrais m'inscrire à un atelier informatique, il lui répond, faites-le par Internet. Mais si j'avais fait par Internet, je ne serais peut-être pas venu ici. Voilà, donc on leur a appris ça. Ensuite, il y a le bailleur où nous avons notre local, Mille et une Vie Habitat. Donc on avait fait un atelier qui s'appelle Web Résident. Donc il était orienté spécifiquement vers les résidents de Mille et une Vie Habitat pour qu'ils puissent faire toutes leurs demandes sur Internet. Donc il fallait qu'ils accèdent au site de Mille et une Vie Habitat et bien sûr avec leurs identifiants et mots de passe. Ils peuvent, par exemple, faire des demandes pour les travaux, les demandes pour tout et tout.
Donc au départ, vous êtes parti du soutien scolaire et vous en êtes venu à aider beaucoup de gens sur plein de domaines.
Oui, c'est pas plus mal et c'est très bien aussi. Et puis, on a cette espèce de volonté et de force pour, je sais pas, répondre aux défis. On n'est pas du genre plutôt, comment dire, laxiste. Il y a une action, on l'a fait, on avance. On ne met jamais l'échec en face, on met toujours la réussite. Puis on fait, il faut que ça réussisse, et ça réussit en général.
Justement, en parlant d'échecs, vous avez aussi enseigné les échecs.
Oui, ben on avait commencé avec M. Rejem en 2012. Donc on faisait ça dans le CVS avec les enfants de l'association. On leur apprenait les rudiments des jeux d'échecs. C'est le déplacement des pièces, le règlement des jeux d'échecs, le but des jeux d'échecs, les tactiques quand ils avançaient un peu plus. Et petit à petit, ça se développait jusqu'à actuellement, où on le fait carrément dans des écoles au niveau de la cité éducative. On a plusieurs écoles sur Mantes-la-Jolie. Il y a vraiment beaucoup d'écoles. Ça touche beaucoup d'élèves. On leur fait un peu cette initiation. Et chaque année, ça se terminait par un tournoi de jeux d'échecs. Le dernier, c'était le 8e. Il y avait la présence du président du conseil départemental, de monsieur le maire, monsieur Cognier. Il y avait des élus, il y avait plein de monde.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
C'est-à-dire une bonne santé pour qu'on puisse continuer. Déjà, c'est le plus important, une bonne santé. Ensuite, un peu d'argent, pourquoi pas? Un peu plus d'argent et surtout, ce qui nous fait défaut le plus, c'est l'espace où travailler. Si on pouvait disposer d'autres locaux, d'autres endroits, j'ai tellement de projets et d'idées en tête, ce serait magnifique.
Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous.
Je vous en prie, merci à vous.